Chapitre 14. Charles Quint à Fontainebleau. Ce n'était pas sans de graves hésitations et d'affreuses angoisses que Charles Quint avait mis le pied sur cette terre de France où l'air et le sol lui étaient pour ainsi dire ennemis, dont il avait indignement maltraité le roi prisonnier et dont il avait peut-être, on l'accusait du moins, empoisonné le dauphin. L'Europe s'attendait de la part de François Ier à de terribles représailles du moment où son rival venait de lui-même se mettre entre ses mains. Mais l'audace de Charles, ce grand joueur d'empire, ne lui avait pas permis de reculer et une fois son terrain habilement sondé et préparé, il avait bravement franchi les Pyrénées. Il comptait en effet à la cour de France des amis dévoués et croyait pouvoir se fier à trois garanties. L'ambition de Madame d'Étampes, l'outrecuidance du connétable Anne de Montmorency et la chevalerie du roi. Néanmoins, quand l'empereur fut entré sur le territoire français, il ne put se rendre maître de ses appréhensions et de ses doutes. Il trouva à la frontière les deux fils du roi qui étaient venus à sa rencontre. Et par tout son passage, on l'accablait de prévenance et d'honneur. Mais le cauteleux monarque frémissait en pensant que peut-être ces belles apparences de cordialité cachaient un piège. « On dort mal, décidément, disait-il, en pays étranger. » Il n'apportait au fait qu'on lui donnait qu'un visage inquiet et préoccupé, et à mesure qu'il pénétrait au cœur du pays, il devenait plus triste et plus sombre. Un jour, dans une promenade à cheval, Charles d'Orléans, espiègle charmant qui se hâtait d'être aimable et brave comme un fils de France, avant de mourir de la peste comme un manant, sauta lestement en croupe derrière l'empereur et le prenant à bras le corps. « À ce coup, s'écria-t-il avec un joyeux enfantillage, vous êtes mon prisonnier !» Charles Quint devint pâle comme la mort et faillit se trouver mal. À Châtellerault, le pauvre captif imaginaire rencontra François Ier, qui lui fit un accueil fraternel et qui, le lendemain, à Romorantin, lui présenta à toute sa cour la valeureuse et galante noblesse, gloire du pays, les artistes et les lettrés, gloire du roi. Les fêtes et les surprises recommencèrent de plus belle. L'empereur faisait à tous bon visage, mais dans son cœur il tremblait et se reprochait toujours son imprudence. De temps en temps, comme pour faire l'essai de sa liberté, il sortait au point du jour du château où on l'avait couché, et il voyait avec plaisir qu'outre les honneurs qu'on lui rendait, on ne gênait pas ses mouvements. Mais savait-il s'il n'était pas surveillé de loin? Parfois, comme par caprice, il dérangeait l'ordre établi pour sa route et changeait l'itinéraire prescrit au grand désespoir de François Ier, dont ses boutades faisaient manquer les cérémonieux apprêts. La présence de sa sœur Éléonore et la confiance qu'elle avait dans la loyauté de son époux calmèrent quelque peu les inquiétudes de l'empereur. Le jour de l'arrivée de l'empereur, il y eut une chasse dans la forêt de Fontainebleau. La chasse était un des grands plaisirs de François Ier. Ce n'était guère qu'une fatigue pour Charles Quint. Néanmoins, Charles Quint saisit avec empressement cette nouvelle occasion de voir s'il n'était pas prisonnier. Il laissa passer la chasse, se jeta de côté et alla jusqu'à s'égarer. Mais en se voyant seul au milieu de la forêt, libre comme l'air qui passait dans les branches, libre comme les oiseaux qui passaient dans l'air, il se rassura presque entièrement et commença de reprendre un peu de bonne humeur. Cependant, un reste d'inquiétude lui monta encore au visage lorsque, se retrouvant au rendez-vous, il vit François Ier venir à lui, tout animé par l'ardeur de la chasse et tenant encore à la main les pieux sanglants. Le guerrier de Marignan et de Pavie perçait jusque dans les plaisirs du roi. « Allons donc, mon bon frère, de la gaieté !» dit François Ier à Charles Quint en le prenant amicalement sous le bras, lorsque les deux souverains mirent également pied à terre à la porte du palais et en l'entraînant dans la galerie de Diane, toute resplendissante des peintures du Rosso et du Primatis. « Vrai Dieu, vous êtes soucieux, comme je l'étais à Madrid. Est-ce que ma cour ne vous plaît pas ?»« Elle est admirable, mon frère, » dit Charles Quint, « et je vous l'envie. » Moi aussi, j'ai une cour, vous l'avez vu, mais une cour grave et sévère, une morne assemblée d'hommes d'État et de généraux. Et je commence vraiment à croire, mon cher frère, que je troquerai volontiers mes mines d'or pour vos champs de fleurs. Oh, parmi toutes ces fleurs, vous n'avez pas encore vu la plus belle, dit naïvement François Ier au frère d'Éléonore. Non, je meurs d'envie d'admirer cette merveille, dit l'empereur, qui, dans l'allusion du roi, avait reconnu Madame d'Étampes. Mais dès à présent, je crois qu'on a bien raison de dire que le plus beau royaume du monde est à vous, mon frère. Mais à vous aussi la plus belle comté, la Flandre, le plus beau duché, Milan. Vous avez refusé l'une le mois passé, dit l'empereur en souriant, et je vous en remercie. Mais vous convoitez l'autre, n'est-ce pas? Ajouta l'empereur en soupirant. Oh, mon cousin, de grâce, dit François Ier, ne parlons pas aujourd'hui de choses sérieuses. Après les plaisirs de la guerre, il n'y a rien, je vous l'avoue, que j'aime moins à troubler que les plaisirs d'une fête. La vérité est, reprit Charles Quint avec la grimace d'un avare qui comprend la nécessité où il est de payer une dette, la vérité est que le Milanais me tient au cœur et que cela m'arrachera l'âme de vous le donner. Dites de me le rendre, mon frère, le mot sera plus juste et adoucira peut-être votre chagrin. Mais ce n'est point de cela qu'il s'agit à cette heure, mais de nous amuser. Nous parlerons du Milanais plus tard. Présent ou restitution, donné ou rendu, dit l'empereur, vous n'en aurez pas moins là une des plus belles seigneuries du monde. Car vous l'aurez, mon frère, ces choses décidées, je tiendrai mes engagements envers vous avec la même fidélité que vous tenez les vôtres envers moi. Eh mon Dieu, s'écria François Ier, commençant à s'impatienter de cet éternel retour aux choses sérieuses, que regrettez-vous donc, mon frère? N'êtes-vous pas roi des Espagnes, empereur d'Allemagne, comte de Flandre et seigneur, par l'influence ou par l'épée, de toute l'Italie, depuis le pied des Alpes jusqu'à l'extrémité des Calabres? Mais vous avez la France, dit Charles Quint, en soupirant. Vous avez les Indes et leurs trésors, vous avez le Pérou et ses mines. Mais vous avez la France, vous. Vous avez un empire si vaste que le soleil ne s'y couche jamais. Mais vous avez la France. Que dirait votre majesté si je guignais ce diamant des royaumes aussi amoureusement qu'elle convoite Milan, la perle des duchés? Tenez, mon frère, dit gravement François Ier, j'ai plutôt sur ces questions capitales des instincts que des idées. Mais de même qu'on dit dans votre pays « ne touchez pas à la reine », je vous dis, moi, « ne touchez pas à la France ». Mon Dieu, dit Charles Quint, ne sommes-nous pas cousins et alliés? Sans doute, répondit François Ier, et j'espère que rien ne troublera désormais cette parenté et cette alliance. Je l'espère aussi, dit l'empereur. Mais, continua-t-il avec son sourire ambitieux et son regard hypocrite, puis-je répondre de l'avenir et empêcher, par exemple, mon fils Philippe de se brouiller avec votre fils Henri? La querelle ne sera pas dangereuse pour nous, reprit François Ier, si c'est Tibère qui succède à Auguste. Qu'importe le maître, dit Charles Quint s'échauffant, l'Empire sera toujours l'Empire, et la Rome des Césars était toujours Rome, même quand les Césars n'étaient plus Césars que de nom. Oui, mais l'Empire de Charles Quint n'est pas l'Empire d'Octave, mon frère, dit François Ier, qui commençait à se piquer. Pavie est une belle bataille, mais ce n'est pas une Actium. Puis Octave était riche, et malgré vos trésors de l'Inde et vos mines du Pérou, vous êtes fort épuisé de finances, on le sait. On ne veut plus vous prêter dans aucune banque, ni à 13 ni à 14. Vos troupes sans solde ont été obligées de piller Rome pour vivre, et maintenant que Rome est pillée, elles se révoltent. « Vous donc, mon frère, dit Charles Quint, vous avez aliéné les domaines royaux, que je crois, et vous êtes obligé de ménager Luther pour que les princes d'Allemagne vous prêtent de l'argent. »« Sans compter, reprit François Ier, que vos Cortès sont loin d'être aussi commodes que le Sénat, tandis que moi, je puis me vanter d'avoir mis pour toujours les rois hors de page. Prenez garde que vos parlements ne vous renvoient quelques beaux jours en tutelle. » La discussion s'animait, les deux souverains s'échauffaient de plus en plus, la vieille haine qui les avait si longtemps séparés commençait à s'aigrir de nouveau. François Ier allait oublier l'hospitalité et Charles Quint la prudence lorsque le roi de France se souvint le premier qu'il était chez lui. « Ah, ça, foi de gentilhomme, mon bon frère, reprit-il tout à coup en riant, je crois, ventre Mahom, que nous allons nous fâcher. Je vous disais bien qu'il ne fallait pas parler entre nous de choses sérieuses et qu'il fallait laisser la discussion à nos ministres et ne garder pour nous que la bonne amitié. Allons donc, convenons une fois pour toutes que vous aurez le monde moins la France et ne revenons point là-dessus. Et moi, le Milanais, mon frère, reprit Charles en s'apercevant de l'imprudence qu'il avait commise et en se remettant aussitôt, car le Milanais est à vous, je vous l'ai promis, je vous renouvelle ma promesse. Sur ces assurances réciproques d'amitié, la porte de la galerie s'ouvrit et Madame d'Étampes parut. Le roi alla au-devant d'elle, et la ramenant par la main en face de l'empereur, qui, la voyant pour la première fois et sachant ce qui s'était passé entre elle et monsieur de Médina, la regardait venir à lui de son regard le plus perçant. « Mon frère, dit-il en souriant, voyez-vous cette belle dame ? Non seulement je la vois, dit Charles Quint, mais encore je l'admire. Eh bien, vous ne savez pas ce qu'elle veut ? « Est-ce une de mes Espagnes ? Je la lui donnerai. »« Non, non, mon frère, ce n'est point cela. »« Qu'est-ce donc ? Elle veut que je vous retienne à Paris jusqu'à ce que vous ayez déchiré le traité de Madrid et ratifié par les faits la parole que vous venez de me donner. »« Mais la salle s'ouvre. À table, messieurs, à table !» Et François Ier, se rapprochant de Charles Quint, prit avec l'empereur la tête du cortège que formaient les illustres convives. Les deux battants de la porte étant ouverts, les deux souverains entrèrent en même temps et se placèrent l'un en face de l'autre, Charles Quint entre Éléonore et Madame d'Étampes, François Ier entre Catherine de Médicis et Marguerite de Navarre. Le repas fut gai et la chair exquise. François Ier, dans sa sphère de plaisir, de fête et de représentation, s'amusait comme un roi et riait comme un vilain de tous les contes que lui faisait Marguerite de Navarre. Charles Quint, de son côté, accablait Madame d'Étampes de compliments et de prévenances. Tous les autres parlaient art, politique. Le repas s'écoula ainsi. Au dessert, comme d'habitude, les pages apportèrent à laver. Alors Madame d'Étampes prit l'aiguillère et le bassin d'or destiné à Charles Quint des mains du serviteur qui l'apportait, comme fit Marguerite de Navarre pour François Ier, versa l'eau que contenait l'aiguillère dans le bassin, et mettant un genou en terre selon l'étiquette espagnole, présenta le bassin à l'empereur. Celui-ci y trempa le bout des doigts, et tout en regardant sa belle et noble servante, il laissa, en souriant, tomber au fond du vase la bague précieuse qu'il avait au doigt. « Votre Majesté perd sa bague, dit Anne, plongeant à son tour ses jolis doigts dans l'eau et prenant délicatement le bijou qu'elle présenta à Charles Quint. « Gardez cette bague, madame, répondit à voix basse l'empereur. Elle est dans de trop belles et de trop nobles mains pour que je la reprenne. » Et puis il ajouta plus bas encore, « C'est un acompte sur le duché de Milan. » La duchesse sourit et se tut. Le caillou était tombé à ses pieds, seulement le caillou valait 1 million. Au moment où l'on passait de la salle à manger au salon et du salon à la salle de bal, Madame d'Étampes arrêta Benvenuto Cellini, que la foule avait amené près d'elle. « Messire Cellini, dit la duchesse en lui remettant la bague gage d'alliance entre elle et l'empereur, voici un diamant que vous ferez, s'il vous plaît, tenir à votre élève Ascanio pour qu'il en couronne mon lys. C'est la goutte de rosée que je lui ai promise. » Et elle est tombée véritablement des doigts de l'aurore, madame, répondit l'artiste avec un sourire railleur et une galanterie affectée. Puis, regardant la bague, il tressaillit d'aise, car il reconnut le diamant qu'il avait monté autrefois pour le pape Clément VII et qu'il avait porté lui-même de la part du souverain pontife au sublime empereur. Pour que Charlemagne se défie d'un pareil bijou, et surtout en faveur d'une femme, il fallait nécessairement qu'il y eût quelque connivence occulte, quelque traité secret, quelque alliance obscure entre Madame d'Étampes et l'empereur. Tandis que Charles Quint continue de passer à Fontainebleau ses jours et surtout ses nuits dans des alternatives d'angoisse et de confiance que nous avons essayé de décrire, tantôt qu'il ruse, intrigue, creuse, mine, promet, se délie, promet encore, jetons un coup d'œil sur le grand aile et voyons s'il ne se passe rien de nouveau parmi ceux de ses habitants qui y sont restés.